Alors, pour introduire le temps de message que nous apportera Sylvain Dupertuis, et on la remercie déjà à l'avance, il m'a demandé de vous lire dans Jérémie, au chapitre 29, les versets 4 à 14, précédés du verset 1. C'est une lettre aux captifs qui sont à Babylone. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait déporté de Jérusalem à Babylone. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Car, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux, ce qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans ou 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai banni, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déporté.
Un culte de rentrée. Rentrée scolaire pour les étudiants, pour les enseignants. Bon, un peu particulière pour moi parce que je suis un enseignant qui entre dans la retraite. Et je m'aperçois que c'est pas si facile d'évoquer la chose. C'est pas si simple. Sans doute que tout au fond, c'est quand même une chose qui nous rappelle notre finitude, hein. C'est à laquelle on fait face quand on arrive à cette étape. Et ça me fait penser à toutes sortes de bifurcations qu'on vit dans nos vies. J'aimerais qu'on évoque un petit peu ces bifurcations avant de voir un peu ce que Jérémie a dit à son époque, et de penser à ce que ça peut nous dire pour aujourd'hui. Alors, dans nos vies, on a des bifurcations, il y en a qu'on choisit, il y en a qu'on subit. Il y en a qui sont prévus, on peut les subir quand même, puis il y en a qui arrivent de manière totalement imprévue. Alors, des bifurcations choisies, bon, ben, par exemple, des jeunes qui se marient. Enfin, chez nous, c'est choisi. Il y a des pays où ça ne l'est pas forcément. Ou bien on s'inscrit à une formation. On s'inscrit à l'université. On s'engage dans un nouveau travail. Mais aussi, des fois, c'est un peu par obligation. Ou bien on a construit une maison, on va y habiter, on se réjouit d'y aller depuis longtemps. Et puis, il y a aussi des bifurcations qu'on subit. On perd son emploi. Ou bien on vit une rupture familiale. On en a évoqué ce matin. Ou bien on perd son lieu de vie parce qu'on est obligé de déménager. Ou bien encore, c'est la maladie qui frappe à la porte. Et c'est vrai que ça, on a vécu plusieurs situations douloureuses, et même la mort, qui nous a touchés dans notre communauté. Si je réfléchis à ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que pendant à peu près les 30 premières années, ça a surtout été des bifurcations choisies. Les études, tout ça, ça s'est assez enchaîné. Formation, puis un départ mariage, départ au Laos, tout ça, c'est des choses qu'on a un peu choisies. Mais dans la suite, je pense qu'il y a eu, je peux imaginer, en tout cas trois bifurcations importantes qui étaient plutôt, en tout cas sur le moment, subies. On était parti au Laos en mission, dans l'idée d'y rester longtemps. Et puis, à cause des circonstances politiques, il a fallu tout d'un coup quitter ce pays. Alors peut-être que de loin ou après coup, on peut dire que c'était un peu prévisible, mais ce n'était pas comme ça qu'on l'a vécu sur le moment, et c'était un véritable déchirement. La deuxième bifurcation à laquelle je pense, et c'est celle qui a été la plus difficile à vivre, c'est rupture familiale, se faire quitter. Puis il y en a aussi eu une sur le plan du travail. C'est vrai que j'ai travaillé pendant longtemps dans la mission. C'est d'ailleurs en travaillant dans la mission avec Armand Heiniger que j'ai rejoint cette église, hein, en 84. C'est vrai que j'ai pas imaginé que ça allait comme ça bifurquer un jour. Et pourtant, voilà, ça fait pas tout à fait 20 ans où ça s'est progressivement un peu transformé. J'ai d'abord été à mi-temps, puis il a fallu rechercher autre chose. Et c'est vrai que ça a été aussi une bifurcation qui n'était pas très facile à vivre, mais elle a quand même ouvert des portes, amené des nouveaux défis dont je suis aujourd'hui très reconnaissant. J'étais cet été à un camp famille avec des Laotiens, et puis certains nous racontaient les bifurcations qu'eux ont vécues quand ils ont dû quitter leur pays, tout perdre, vivre quelques années dans des camps sans savoir du tout quel avenir on pourrait bien avoir, si nos enfants pourraient même avoir une fois une éducation, puis se retrouver dans un pays à devoir apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, des nouveaux métiers, tout ce qu'ils avaient comme compétences était plus ou moins jeté à la poubelle, tout était à recommencer à zéro. Mais voilà, des ruptures qui sont difficiles. Alors, voilà, je pense que ça peut évoquer pour vous, chacun de vous a dû bien vivre dans sa vie de ces bifurcations qui ne sont pas toujours simples à vivre. Alors, Jérémie, le texte qu'on a lu, ça se passe environ 600 ans avant Jésus-Christ. Voilà qu'à cette époque, à une certaine distance du peuple juif, à Babylone est arrivé un roi Nabucodonosor. Babylone, c'est en Irak d'aujourd'hui, c'est une centaine de kilomètres de l'actuel Bagdad. Puis là est venu un roi qui a commencé à étendre son empire assez loin, jusqu'à toute la Palestine entre autres. Il n'est pas allé jusqu'en Égypte, mais aux frontières de l'Égypte. Et puis, vers 598-97, siège et déportation d'une partie de la population de Jérusalem. Et puis, une nouvelle attaque une dizaine d'années plus tard. Et cette fois, c'est le temple qui a été détruit. Et là, il y a effectivement une partie, un nombre important de juifs, en tout cas des gens de Jérusalem et environ, qui ont été déportés à Babylone. Voilà, c'est des gens qui ont un peu vécu ce qu'ont vécu les Laotiens dont je vous parlais. Alors, Jérémie, lui, il est resté à Jérusalem, et voilà qu'il écrit une lettre à ses compatriotes. Donc, on voit qu'il y avait des liens, quand même, entre les juifs déportés et puis les juifs qui étaient restés en Palestine. Il écrit une lettre probablement quelques années ou peu de temps après la première déportation. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Si j'en résume, il leur dit trois choses importantes. D'abord, il leur dit, vous êtes là-bas, eh ben, construisez des maisons, mariez-vous et faites des enfants. Voilà. Et puis, pardon? Oui? Et puis, travaillez au bien du pays où vous êtes. C'est pas évident pour des juifs qui ont leur tradition, qui ont leur règles alimentaires, etc. Ils sont dans un autre pays où on a d'autres traditions, ils sont chez des païens. Alors, on leur dit, restez pas entre vous à vivre votre vie, à attendre autre chose, intégrez-vous dans cette société. Puis la deuxième chose qu'il lui dit, il ne faut pas vous laisser séduire par des faux prophètes. Il y a chez vous des faux prophètes. Des faux prophètes qui vous font croire que bon, ça ne va pas durer longtemps, donc vous vivez en perspective d'un avenir hypothétique, puis vous ne vous occupez pas du présent. Et puis quand même, il leur dit, il y a une promesse de retour, il y a une promesse d'avenir. Mais vous vous souvenez du chiffre? Il dit 70 ans. Bon. Alors c'est bien joli, 70 ans, parce que ça veut dire ceux qui reçoivent la lettre, ils seront plus là 70 ans après. Hein. Surtout avec la durée de vie moyenne de l'époque. Donc c'est un espoir, mais qui est un peu lointain. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ces recommandations de Jérémie à son époque, dans sa situation, pour nous aujourd'hui? Moi, j'aimerais y réfléchir sur deux plans, d'une part sur le plan personnel et puis d'autre part sur le plan de la communauté. Sur le plan personnel, je pense qu'on peut y voir un appel à un peu accueillir et à habiter les situations dans lesquelles on est. Ça peut être la santé ou la maladie, notre lieu de vie, notre cadre de travail, notre environnement familial. L'habiter pour en faire quelque chose. Je ne crois pas que c'est une attitude fataliste qu'il nous propose, hein, mais de travailler à partir de la situation où on est. Parce que, dit-il aux Juifs, c'est là que Dieu vous a envoyé. Et je crois qu'effectivement, là où on est, dans le boulot où on est, dans la famille où on est, dans l'église où on est, dans la commune où on est, Dieu nous y a envoyé. Alors, personnellement, je ne crois pas que Dieu nous a envoyé le malheur quand le malheur nous tombe dessus. Bon, il y a des gens qui disent ça. Personnellement, je ne dirais pas. Je ne crois pas. Il y a une espèce de... Dieu n'est pas à l'origine du mal dans la Bible. Mais là où on se trouve, c'est lui qui nous a envoyés pour qu'on en fasse quelque chose, pour qu'on soit ses témoins, pour qu'on puisse donner ce que nous avons reçu de lui, transmettre tout ce qui est possible, travailler au bien de notre environnement naturel. Et puis, il y a un avertissement contre la fuite. La fuite dans le rêve ou la fuite dans les prophéties illusoires. Puis je crois qu'on est aussi des fois en danger de ça dans l'Église. Dans cette idée que voilà, Dieu va guérir de toute manière, Dieu vous... On a un chant d'ailleurs qui termine comme ça, puis qui est un petit peu hérétique. C'est avec, je sais comment ça va, celui qui termine par avec Dieu tout ira bien. Hein. C'est un petit peu simpliste. Comme d'ailleurs dans la reprise de ce chant dans le recueil des églises réformées, vous aurez vu qu'ils ont changé cette dernière phrase. Oui. Parce que c'est vrai, on n'est pas sûr qu'avec Dieu on sera guéri. Mais oui, Dieu guérit parfois, et puis parfois non. Et on l'a tous expérimenté. On n'est pas sûr ni de réussir ses examens, ni de jamais avoir d'accident de voiture, ni de jamais avoir d'accident de famille. Voilà, mais... Ça serait vivre dans l'illusion que croire que la présence de Dieu nous préserve de ces choses. Maintenant, sur le plan communautaire, ça va tout à fait dans le même sens que ce que Michel nous a dit. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui, grâce à lui, une francisation des brainstorming. Je ne savais pas qu'on disait tempête de cerveau, mais c'est bien. Voilà. Alors, un encouragement à participer à la vie sociale de notre environnement, et pour notre Église, de notre environnement mérinois tout spécialement. Alors, ce n'est pas complètement évident pour moi en particulier, pour pas mal d'entre nous qui habitons pas Mérin, Mais je crois que c'est aussi un privilège qu'on a dans notre Église, par rapport à un certain nombre d'autres Églises évangéliques, d'avoir un véritable ancrage local. Et je crois que ça, on est encouragé par ce texte à le cultiver, parce que ça a une valeur de témoignage. Je crois que l'évangélisation, elle passe vraiment principalement à travers le tissu de relations qu'on construit dans notre environnement. Et l'évangélisation que nous faisons comme Église, elle passe aussi à travers l'ensemble de ce que les gens, les personnes et la communauté fait de manière visible, et beaucoup le font de manière invisible, mais ça y participe dans notre lieu. Et finalement, une promesse d'avenir. Jérémie parle de projet de bonheur. Je ne sais pas si vous savez quel mot il y a derrière ce mot bonheur, parce que c'est un mot, pardon, c'est shalom, exactement. C'est un terme qui a plein de sens, qui peut être traduit de manière différente suivant les contextes. Ici, c'est non pas du malheur, mais du bonheur. La traduction va bien. Mais c'est le même mot pour dire la prospérité, au verset 7, la prospérité du pays où vous êtes. C'est un mot qui est traduit ailleurs par paix, parce qu'il s'oppose à la guerre. Alors, c'est pas qu'on soit dans la théologie de la prospérité, qui, je crois, est une véritable hérésie, qui fait des dégâts dans beaucoup de pays, mais c'est un mot qui évoque, selon la Tob, une certaine plénitude, un bien-être qui résulte de relations sociales bien équilibrées, la paix, l'amitié. Donc, si vous voulez, si la prospérité, c'est un espèce de fruit de quelque chose qui est vécu au niveau des relations. Alors, on a cette assurance que Dieu veut pour nous quelque chose de ce type, quelles que soient les circonstances. Il a un projet de shalom pour chacun de nous, mais qui n'est pas forcément la réussite ou la prospérité matérielle. Donc, c'est encore une invitation à cultiver des relations justes, des relations apaisées, des relations vraies. Alors, c'est cette promesse d'une présence de Dieu dans nos circonstances de vie, quelles qu'elles soient, que j'aimerais que nous gardions aujourd'hui, et que cette présence et cette promesse puissent accompagner notre rentrée scolaire ou autre.